Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous le constatez, ma voix n'est pas totalement revenue, en tout cas, c'est fluctuant. Donc, encore une fois, en ce dimanche, je m'appuierai sur la grâce de Dieu pour pouvoir terminer ce message dans les bonnes conditions. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, nous dirons tous Amen avant la fin. Oui, j'espère que vous avez encore ce verset 2 en tête. Mais j'espère que vous avez aussi le verset 1 en tête. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais me répéter plusieurs fois durant ce message, et je pense qu'au bout du compte, vous finirez par connaître ces versets. Vous avez compris, avec les deux messages précédents, que nous sommes à un endroit charnière de la lettre aux Romains. Les 11 premiers chapitres ont constitué la base, la fondation, le socle de tout ce qui sera évoqué dans les chapitres 12 à 15. L'apôtre Paul, pendant 11 chapitres, évoque la grâce de Dieu envers les hommes pécheurs qui étaient privés de sa gloire. Dieu a manifesté concrètement, historiquement, sa compassion. Je lis en Romains chapitre 8, versets 3 à 4. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne, nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Ce que je viens de lire, c'est l'essentiel de ce qu'un chrétien doit se rappeler chaque jour. Que Dieu lui a fait grâce. C'est l'histoire de tout chrétien. Si vous devez rendre témoignage, vous mentionnerez toujours à un moment donné que Dieu vous a fait grâce. C'est l'histoire de tout chrétien. Dieu nous a traités avec grâce, avec compassion, avec bonté. Par amour, Dieu nous a sauvés de la condamnation que nous méritions. Voilà ce que Dieu a fait. Donc, par les compassions de Dieu, Paul encourage fraternellement ses destinataires à offrir entièrement à ce Dieu de compassion leur corps comme un sacrifice qui lui est agréable. Et nous l'avons vu la semaine dernière, c'est le culte raisonnable que Dieu nous demande du lundi au dimanche. Pas seulement le dimanche, du lundi au dimanche. Une vie entièrement consacrée à sa gloire, à son service, à son royaume. C'est la vocation commune à tous les chrétiens, car tous ont été au bénéfice de la grâce de Dieu. La vocation d'être entièrement consacré à lui. Et nous connaissons pourtant la réalité. La réalité, c'est que nous avons tous du chemin à parcourir. La réalité, c'est qu'aucun d'entre nous ne pourrait prétendre qu'il consacre l'entièreté de sa vie à Dieu. Précisément parce que nos pensées ne sont pas toujours alignées sur les pensées de Dieu. Étant nous-mêmes pécheurs et vivant dans un monde habité par des pécheurs, nous rencontrons bien des difficultés à appliquer ce premier verset de Romains 12, à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, à nous consacrer entièrement à Dieu. Nous rencontrons bien des difficultés à appliquer cela. D'où les impératifs du verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ces impératifs que je viens de nommer nous font prendre conscience que nous avons besoin d'une intelligence constamment renouvelée. Nous avons besoin que Dieu continue dans sa grâce de nous transformer de l'intérieur. Si Dieu n'intervient pas, s'il ne fait rien, nous ne changerons pas, malgré nos efforts. Si Dieu ne fait absolument rien, nous ne changerons pas malgré nos efforts. Vous pouvez appliquer la meilleure discipline, vous ne changerez pas. Parce que cette œuvre, seul Dieu peut l'opérer. Nous pourrions tenter de changer nos habitudes, d'adopter même de bonnes habitudes, mais notre cœur resterait inchangé. Notre transformation est une œuvre de Dieu. Et nous avons continuellement besoin que cette œuvre se poursuive en nous, sans relâche. Alors je vous propose de regarder l'un après l'autre ces impératifs. D'abord, ne vous conformez pas. La vie chrétienne est une vie nouvelle, radicalement opposée à la vie d'avant la conversion. Avant de venir à la foi en Christ, nous vivions pour nous-mêmes. Le péché était notre maître et nous faisions absolument tout ce qu'il commandait. Et en premier lieu, le fait de ne pas nous préoccuper de Dieu. Oui, ça c'est ce qu'était notre vie avant de connaître Christ. Avant de croire en Jésus, nous avions comme terrain de jeu le monde dans lequel nous vivons. Un terrain de jeu avec 1000 distractions qui nous orientaient vers notre bonheur, notre plaisir, la satisfaction de nos désirs. Avant de découvrir que Jésus est la vérité, nous avions 1000 maîtres à penser qui avaient tous en commun la capacité de nous éloigner de Dieu. L'apôtre Paul dit à ses frères et sœurs de Rome, « Ne vous conformez pas au monde actuel. » Et si vous avez quelques connaissances de leur monde actuel à l'époque, le monde antique, vous savez que les chrétiens vivaient au milieu de gens qui adoraient d'autres divinités, qui offraient des sacrifices à des idoles. Vous savez que ces chrétiens vivaient au milieu de gens qui s'enflammaient pour ceux et celles du même sexe. Paul parle de cela dans le premier chapitre de sa lettre aux Romains. Il parle de passions avilissantes. Il parle de passions déshonorantes. Il parle de la colère de Dieu envers ces hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Nous comprenons alors l'impératif de Paul. Ne vous conformez pas au monde actuel. Ne vous conformez pas à ce monde qui n'honore pas Dieu et qui ne respecte pas sa volonté. C'est le propre du monde de s'opposer à Dieu. C'était vrai au temps de Paul, c'est toujours vrai de nos jours. Or, les chrétiens qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ n'appartiennent plus à ce monde hostile à Dieu. Ils ont changé de camp, ils étaient effectivement dans leur passé ennemis de Dieu. Mais ils ne le sont plus désormais, puisque grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, qui est mort pour eux, ils sont réconciliés avec Dieu. Paul commence ainsi le chapitre 5 de Romains. « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce qui n'est pas le cas du monde. Le monde n'est pas en paix avec Dieu. Le monde est en conflit avec Dieu. Ne vous conformez pas au monde actuel. N'adoptez pas leur façon de penser. N'adoptez pas leur façon de vivre. N'adoptez pas leur manière de distinguer le bien et le mal. Car fondamentalement, la manière de penser du monde est opposée à Dieu. Prenons l'exemple du sujet du développement personnel. Vous savez qu'il y a une littérature abondante à ce sujet. Cela intéresse les gens. C'est à la mode, c'est bienfaisant, c'est bienveillant, c'est tourné vers soi, c'est tourné vers son accomplissement, vers sa restauration, vers sa reconstruction, on pourrait même dire peut-être vers sa guérison. Où est le mal dans tout ça? J'aimerais répondre, où est Dieu dans tout ça? À quel moment dans cette littérature allons-nous mettre Dieu au centre à la place de l'homme? Est-ce que vous voyez l'opposition entre la manière de penser du monde centrée sur l'homme? Est-ce que Dieu veut faire en nous par le renouvellement de l'intelligence où Dieu est au centre? vous donne un autre exemple qui est très flagrant à notre époque. Vous voyez ce que je fais là? Je pense que parfois on le fait tous. Dans un moment d'ennui, par exemple, c'est ça qu'on fait quasiment en premier. Au matin, lorsqu'on se réveille, c'est ça qu'on fait aussi quasiment en premier. Dans le métro, vous constatez que les gens, ils ont souvent les yeux rivés sur ça. Paul dit en Romains chapitre 12, verset 1, « Je vous encourage donc par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. » À offrir votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Constatez ce que la technologie de notre temps a fait de nos corps. De ces yeux qui sont rivés sur l'écran à faire défiler parfois des vidéos franchement stupides. De ces mains qui ne peuvent s'empêcher d'allumer ces portables maintes fois dans la journée, du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce que la technologie a fait de nos corps ? Et j'en suis victime comme vous. Tout ce que je décris là, je le fais aussi. Mais qu'est-ce que la technologie a fait de nos corps ? Est-ce que nous prenons conscience de cela ? À quel moment allons-nous reprendre le contrôle sur nos corps pour nous offrir plutôt à Dieu ? Là, je vous décris un phénomène de société, mais qui nous touche tous. Qu'est-ce que la technologie a fait de nos corps ? Pour nous manipuler à ce point-là. Ne vous conformez pas au monde actuel. Nous ne trouverons rien dans ce monde qui nous encourage à passer plus de temps en communion avec le Seigneur. C'est même tout le contraire. Ce monde est tellement distrayant. Où est le mal dans tout ça ? J'aimerais répondre, où est Dieu dans tout ça ? Où est la gloire de Dieu dans tout ça ? Romains chapitre 1, versets 20 à 21. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils, c'est-à-dire les hommes, sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. » Voilà le constat de Paul. Qu'est-ce que fait le monde ? Les hommes ne rendent pas gloire à Dieu tel qu'il le mérite. Et si nous ne sommes pas vigilants, nous pourrions aussi les imiter. Mais heureusement, Dieu nous adresse cette parole ce matin par l'apôtre Paul. Ne vous conformez pas au monde actuel. Dieu nous ouvre les yeux sur la vraie nature du monde qui nous entoure. La vraie nature de ce monde, c'est que c'est un monde qui ne rend pas gloire à Dieu. Et en ce sens, la foi chrétienne est un non-conformisme au monde. Fondamentalement, nous ne vivons pas comme celles et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous pouvons étudier dans ce monde. Nous pouvons travailler dans ce monde. Nous nous marions comme les gens de ce monde. Nous voyageons comme tout le monde. Nous allons au restaurant comme les autres. Mais voilà ce qui diffère fondamentalement. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Voilà fondamentalement ce qui nous distingue de celles et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce ne sera jamais le slogan du monde actuel, de tout faire pour la gloire de Dieu. En revanche, c'est le propre des enfants de Dieu de tout faire pour sa gloire. Mais comme je l'ai dit au début, nous n'y parvenons pas constamment. Le monde est attrayant, extrêmement séduisant. J'en sais quelque chose, je vis dans ce monde. Le monde est extrêmement séduisant. Il y a tellement mieux à faire un dimanche matin que de venir à l'église. C'est ce que le monde nous propose. Dans ce monde déchu, nous sommes parfois aussi, on doit le reconnaître, comme des poissons dans l'eau. On se sent bien dans ce monde. Pourquoi on se sent bien? Mais parce qu'on est encore pécheur. Un pécheur dans un monde de pécheurs. Il n'y a pas de jeu de mots. Hein. On est comme des poissons dans l'eau. Alors comment ne pas nous conformer au monde actuel? Comment faire? Eh bien, la suite du verset 2 nous l'indique avec le deuxième impératif. Mais soyez transformés. Mais soyez transformés. Vous l'avez peut-être vu dans bon nombre d'histoires, de films. Il faut se méfier des méchants qui deviennent des alliés. Dans certaines histoires, vous avez ce moment particulier où le mauvais personnage qui avait aidé le héros dans sa quête finit par se retourner contre lui. Vous avez des histoires comme ça en tête? Où le méchant de l'histoire qui est devenu, semble-t-il, un allié, un ami du héros, finit par se retourner contre lui à un moment donné. En fait, par le trahir, par révéler sa vraie nature. Parce qu'en réalité, il n'avait pas changé. En réalité, il était resté fourbe. En réalité, il attendait la bonne occasion pour faire du mal au héros qu'il déteste. Et d'une manière un peu semblable, comment pouvons-nous nous assurer qu'un ennemi de Dieu devenu chrétien ne finisse pas par se retourner contre Dieu et contre les autres chrétiens? Comment pouvons-nous nous assurer que quelqu'un qui se convertit, qui devient chrétien, ne finira pas par se retourner contre les chrétiens? Cela rappelle le cas de Paul. Peu de temps après sa conversion à Christ, Paul a dû faire face à la suspicion de certains. On lit cela en Actes chapitre 9, verset 26. « Arrivé à Jérusalem, Saul, ou Paul, essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. » Le méchant devenu gentil. Il ne croyait pas qu'il était un disciple. Les autres avaient peur de celui qui était connu pour être le persécuteur de l'Église. Mais comme nous le voyons par la suite, jamais Paul ne s'est retourné contre l'Église après sa conversion. Jamais il n'est redevenu le persécuteur qu'il était. Pourquoi? Parce que Dieu l'a transformé. Parce que Dieu l'a transformé. Le changement que Dieu avait opéré dans son cœur était un vrai changement. Ce n'est pas le méchant qui était en fait fourbe et qui reste méchant. Mais Dieu a la puissance de changer les méchants en gentils. Si je dois utiliser un peu ce langage enfantin. Dieu, lui seul, a la puissance de changer de vrais méchants, des ennemis de Dieu, en personne, à son service, jusqu'à leur mort. C'est le cas pour l'apôtre Paul. Il est mort pour Christ. Alors, quel est le rapport avec le deuxième impératif? Eh bien, Paul exhorte ses frères et sœurs de Rome à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ainsi qu'ils ne se conformeront pas au monde actuel. Paul souligne ce qui est indispensable dans la vie chrétienne, à savoir cette transformation que seul l'Esprit de Dieu opère en nous. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. L'impératif appuie là-dessus. Soyez transformés. Vous l'avez peut-être déjà entendu. En grec, le verbe employé pour cet impératif, soyez transformés, en grec, eh bien, ça a donné le verbe métamorphoser en français. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez métamorphosés. C'est peut-être un peu plus fort que soyez transformés. Soyez métamorphosés. Et le fait que Paul le dise à cet endroit à des chrétiens indique bien que cette métamorphose est toujours en cours. Elle a démarré, mais elle continue. Soyez transformés ne renvoie pas à la conversion, mais à la vie chrétienne courante. Soyez transformés. Encore maintenant, et demain, et après-demain, et les jours suivants, soyez transformés. Tous les jours, nous devrions nous rappeler cela. Soyez transformés. Notre métamorphose n'est pas terminée. ce que Dieu a initié au début de notre vie chrétienne, en nous donnant un cœur nouveau, doit se poursuivre. Ce n'est pas parce que j'ai reçu un cœur nouveau que je n'ai plus besoin d'être renouvelé, que je n'ai plus besoin d'être transformé. Si, soyez transformés, sinon ce que Paul dit ici n'a aucun sens. Cela me rappelle bien que j'en ai besoin, tous les jours. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles nous pouvons stagner dans notre marche avec le Seigneur, c'est parce que nous avons estimé à un moment donné que nous n'avions plus besoin d'être transformés. Nous avons estimé à un moment donné, en fait, que nous n'avions plus besoin de ce renouvellement de l'intelligence. Or, nous en avons constamment besoin. Aussi longtemps que nous serons pécheurs, aussi longtemps que nous vivrons dans ce monde déchu, nous aurons besoin de cette métamorphose. Et quelle partie de notre personne est concernée par cette transformation? Paul répond, l'intelligence. Notre manière de penser, notre système de pensée. C'est ça qui est défectueux, c'est ça qui a besoin d'être changé. C'est là que nous avons besoin d'une nouvelle manière de penser, entièrement différente de celle du monde et entièrement conforme à la volonté de Dieu. Je reviens une fois de plus à Romains 1. Romains chapitre 1, verset 28. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Nous retrouvons ici le mot intelligence. C'est le même mot en grec. Avez-vous remarqué la conséquence d'une intelligence qui n'est pas transformée par le Seigneur, qui n'est pas renouvelée par son esprit? La conséquence, c'est qu'ils commettent des actes indignes. Lesquels? Paul les énumère. Je lis les versets 29 à 31. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, ils sont irréconciliables, sans pitié. Cette liste que je viens de lire, c'est ce que nous retrouvons à la une des journaux, tous les jours. Tout simplement parce que l'intelligence déréglée, corrompue par le péché, naturellement hostile à Dieu et donc à ses commandements, conduit les hommes et les femmes de notre temps à des actes indignes. Est-ce que nous avons compris cela lorsque nous lisons l'actualité? Que c'est à cause de l'intelligence déréglée que les hommes et les femmes de notre temps se comportent de la manière dont ils se comportent. Sans la grâce de Dieu, sans son intervention dans notre vie, nous serions encore de leur nombre. Nous ferions peut-être la une des journaux, mais dans le mauvais sens. Non seulement dans sa grâce, Dieu nous déclare juste si nous avons placé toute notre confiance en Jésus. Mais Dieu, dans sa grâce, également nous transforme. Et le fait est fait de nous de nouvelles créatures en renouvelant notre intelligence parce que nous avons besoin de cela. Et tout cela dans quel but? Je relis le verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner le but, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notre intelligence doit constamment être renouvelée afin que nous puissions reconnaître ce qui est bon, ce qui est agréable, probablement à Dieu, ce qui est parfait. Il s'agit, en fait, quand on parle ici de la volonté de Dieu, il s'agit de la volonté que Dieu a exprimée dans sa parole. Il s'agit de sa loi, il s'agit de ses commandements, il s'agit de ce qui lui plaît. Il s'agit de ce que Dieu considère comme bien. Et l'action de l'Esprit de Dieu est nécessaire pour que nous sachions distinguer ce qui est bien de ce qui est mal aux yeux de Dieu. Nous avons besoin que notre intelligence soit renouvelée. Le mouvement du chrétien est le suivant. Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24. Paul écrit « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau. Vous remarquez que dans ce même texte, il est question du renouvellement de l'intelligence. Nous retrouvons cette idée qu'il est indispensable. Et si au moins vous reteniez simplement une chose de ce message, j'espère que c'est simplement cette affirmation que nous avons constamment besoin que notre intelligence soit renouvelée par Dieu. Cette transformation est l'œuvre de l'Esprit. Seul Dieu peut transformer des méchants en gentils. C'est une œuvre continue tout au long de notre vie. C'est pourquoi nous en avons besoin chaque jour. Nous ne pouvons pas estimer en avoir fini avec cette transformation. C'est lorsque notre intelligence est renouvelée par le Saint-Esprit que nous nous mettons à nous aligner sur la volonté de Dieu. Avec une intelligence renouvelée, nous saurons comment ne pas nous conformer à ce monde. Voulons-nous ? Voulons-nous de cette œuvre de l'Esprit au plus profond de nous ? Voulons-nous de cette transformation constante ? Voulons-nous que Dieu travaille au niveau de notre manière de penser ? Qu'il travaille de l'intérieur ? Normalement, si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous allons répondre oui. Oh que oui, Seigneur. Oh que oui, œuvre en moi par ton esprit pour renouveler ma manière de penser. Sans ton aide, je risque de me conformer à ce monde et donc de ne pas faire ta bonne volonté. J'ai vraiment besoin, Seigneur, que tu travailles chaque jour en mon être intérieur pour que je me comporte en toutes circonstances comme le veut ta volonté, conformément à ta volonté, conformément à ta parole. J'aimerais vraiment nous encourager à prier ainsi chaque jour. Que ce « soyez transformé » devienne une réalité quotidienne. Je vais dire une évidence. Mais la première étape vers le changement, c'est d'abord d'admettre notre besoin de changer. Si nous n'admettons pas que nous en avons besoin, en fait, nous n'allons pas nous soumettre à Dieu. Nous n'allons pas nous soumettre à l'Esprit Saint qui veut nous transformer. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est à ce niveau-là que les choses doivent changer. Et je termine en évoquant le moyen par excellence qui nous conduit à une intelligence renouvelée. Comment l'Esprit de Dieu renouvelle-t-il notre intelligence ? Comment va-t-il changer notre manière de penser pour que nous pensions davantage comme Dieu pense ? La réponse est simple, avec la parole inspirée de Dieu. Comment l'Esprit renouvelle notre intelligence ? Avec la parole inspiré de Dieu. Pour autant, cela requiert des efforts de notre part. La Bible n'est pas toujours facile à comprendre, je vous l'accorde. Néanmoins, un chrétien ne peut pas raisonnablement se passer de sa lecture. Si un chrétien n'ouvre qu'occasionnellement la Bible, comment peut-il espérer avoir une intelligence renouvelée ? Il finira tôt ou tard par se conformer à la pensée qui l'entoure, au discours qu'il entend, à ce qu'il voit et lit sur Internet. Tôt ou tard, il se conformera au monde actuel. parce que son intelligence n'est pas renouvelée. Si la parole de Dieu n'a pas une place prépondérante dans son quotidien et dans son cœur, le chrétien ne laissera que très peu de place à l'action de l'Esprit en lui. Or, nous avons souligné qu'un chrétien ne pouvait se passer de l'intervention de Dieu pour pouvoir changer. Lire la parole de Dieu, prendre le temps de la méditer, de réfléchir dessus aussi souvent que possible, c'est permettre à l'Esprit de travailler en nous, en nous montrant par exemple ce que nous devons corriger dans notre vie. C'est déjà un premier pas pour faire la volonté de Dieu, de corriger ce que nous avons à corriger dans notre vie. C'est déjà un premier pas pour obéir à Dieu. Et c'est ce que l'Esprit fait lorsqu'il nous convainc par la parole. Je lis ces versets que vous connaissez dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Ça veut dire que tout est déjà dans la parole de Dieu. Ça veut dire que tout ce que Dieu attend des êtres humains, et en particulier de ses enfants, est inscrit dans ce livre. Vous ne le trouverez pas en dehors. Vous ne le trouverez pas dans la littérature de développement personnel. Ça se trouve ici. Dieu jugera nos actes en fonction de ce livre. Toute l'Écriture, vous l'entendez dans ce passage, toute l'Écriture conduit à toute œuvre bonne. Tout ce que nous pouvons faire de bien pour Dieu se trouve là. Est dicté par Dieu lui-même dans ce livre. Il n'y a pas de juste milieu. Soit nous sommes inspirés par la parole de Dieu pour agir, soit nous sommes inspirés par la parole du monde. Mais retenons ce matin ces deux impératifs que l'apôtre Paul nous adresse. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En demandant à Dieu de nous éclairer, afin de comprendre sa parole, en réfléchissant à ce que Dieu dit, à ce qu'il commande, en étudiant sa parole, nous finissons par discerner ce que Dieu veut et comment l'appliquer dans notre vie. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons des études bibliques en groupe de maison. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons une étude biblique mensuelle sur la première épître aux Corinthiens. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons une prédication chaque dimanche sur la parole. Durant les réunions de prière, la parole de Dieu est lue et oriente nos prières. Ce que nous enseignons aux enfants, ce qui se passe là-bas à côté, ou aux jeunes, provient de cette même parole que l'Esprit utilise pour renouveler notre intelligence. J'espère être pour vous un bon exemple. Mais pensez-vous que je sois parvenu là où je suis en termes de maturité spirituelle sans étudier la parole pendant des heures et des heures? Je ne suis pas en train de dire cela pour mettre en avant un accomplissement de ma part, mais pour vous dire que c'est indispensable en fait. J'ai encore besoin d'être transformé par le renouvellement de mon intelligence, bien sûr. J'ai toujours besoin du Saint-Esprit pour poursuivre cette métamorphose. J'ai besoin que Dieu renouvelle mes pensées avec sa parole qui contient ce qu'il pense. J'ai besoin de relire encore et encore qu'il est ce Dieu de grâce, ce Dieu de compassion qui a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir sur une croix en portant nos péchés. Et qu'ainsi nos péchés sont pardonnés, et qu'ainsi je suis déclaré juste, et qu'ainsi il n'y a plus du tout de condamnation pour moi. J'ai besoin de lire ce livre pour me le rappeler constamment. Puisque Dieu a été si bon à mon égard, animé par son esprit, je peux avec joie accepter ses exigences. Je peux avec joie accepter ses commandements. car par-dessus tout, je veux l'aimer et lui être agréable. Voilà ce que Dieu provoque en quelqu'un qu'il transforme. Jésus est mon Seigneur et mon Dieu, comme le disait l'apôtre Thomas. Et je veux montrer au monde que la volonté de Dieu que ce monde rejette est bonne. Mais je ne veux pas le faire tout seul, parce que c'est le témoignage de toute l'Église. Alors voici une mise en pratique. Quelle est la volonté de Dieu pour notre Église ? Eh bien, voyons ce qui est indiqué dans la suite du chapitre 12. Nous allons déborder un petit peu le verset 2, et je vous propose de regarder Romains 12, verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » Et le verset 16, « Vivez en plein accord les uns avec les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. » Chacun dans l'Église, renouvelé par le Saint-Esprit dans son intelligence, comprend qu'il n'y a pas lieu de s'élever au-dessus des autres. Aucun n'aura une trop haute opinion de lui-même, car il sait qu'il est au bénéfice de la même grâce que les autres dans l'Église. Pourquoi je ne peux pas me montrer supérieur aux autres ? Mais parce que j'ai bénéficié de la même grâce que mon frère et ma sœur. Le salut que j'ai reçu, je ne l'ai pas mérité, mais comme mon frère et ma sœur. Donc je ne peux pas avoir une trop haute opinion de moi, puisque j'ai reçu un salut que je n'ai pas mérité. C'est une mentalité tellement différente que nous retrouvons sur les bancs de l'école ou dans le monde du travail, où l'idée serait plutôt de se montrer supérieur aux autres, où l'idée serait plutôt de servir ses propres intérêts en faisant fi des intérêts des autres. L'apôtre Paul nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel. » Quelle est la volonté de Dieu pour notre Église ? Je lis le verset 10, toujours dans Romains 12. « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Chacun dans l'Église, renouvelé par le Saint-Esprit dans son intelligence, comprend que le Seigneur l'a aimé. Et comprend que le Seigneur a aussi aimé son frère et sa sœur en Christ. Puis-je raisonnablement manquer d'amour et d'affection à l'égard de ceux que Dieu a tant aimés, qu'il a donné son Fils pour que ceux-ci aient la vie ? Nous avons beau être tous très différents quant à notre personnalité, quant à nos goûts personnels, quant à notre culture d'origine, à notre niveau d'études, et que sais-je encore. Peu importe, puisque ce que les frères et sœurs en Christ ont en commun, c'est qu'ils étaient condamnés à cause de leurs péchés et que Dieu leur a fait grâce. C'est ça le point commun que nous avons les uns avec les autres. Nous étions condamnés à cause de nos fautes, mais Dieu nous a fait grâce. C'est l'histoire de tout chrétien. C'est pourquoi je peux être plein d'affection. C'est quand même fort comme formulation. Je peux être plein d'affection à l'égard d'un frère, d'une sœur, avec qui je n'ai aucun autre point commun que celui que j'ai mentionné. C'est une mentalité tellement différente que nous retrouvons en dehors de l'Église, où les relations fonctionnent par affinité. Mais vous voyez que dans ce verset 10, il n'est pas question d'affinité. Paul ne dit pas « Soyez plein d'affection à l'égard de ceux qui vous ressemblent et avec qui vous avez des affinités. » Déjà, ce serait trop long et ce n'est pas ce que Paul a dit. Mais Paul a dit « Soyez plein d'affection les uns pour les autres. » Alors bien sûr, ça demande à coup sûr plus d'efforts. Mais vous voyez, quand nous le vivons, cela révèle que notre intelligence a été renouvelée. Parce que nous faisons la volonté de Dieu pour son Église. J'en dirai davantage lors du week-end d'Église. Donc je m'en tiens là. Mais vous avez vu ce que je viens de faire. Je me suis arrêté sur quelques versets de la parole de Dieu qui expriment clairement la volonté de Dieu pour son Église. Et le Saint-Esprit nous convainc que c'est ainsi que nous devons vivre nos relations fraternelles. Il renouvelle notre intelligence, il nous transforme de l'intérieur, il nous fait comprendre que c'est ce que Dieu veut. Il nous place sur la voie de l'obéissance et d'une manière qui nous paraît presque naturelle, nous faisons ce que Dieu veut. Notre volonté adhère à la volonté de Dieu, exprimée dans sa parole. Et combien c'est agréable de faire la volonté de Dieu, sans qu'il y ait de résistance en nous. Je veux faire ce que tu veux. Combien c'est agréable, et j'espère que vous avez déjà vécu cela, que vous avez déjà expérimenté le fait que c'est tellement agréable de faire la volonté de Dieu sans qu'il y ait de la résistance en nous. Tout cela parce que notre intelligence a été renouvelée. Est-ce que je vous ai perdu? Non? Alors je conclue. Considérons une nouvelle fois la grâce de Dieu dans notre vie. Depuis la chute, tous les hommes naissent avec une intelligence déréglée qui les entraîne à commettre des actes indignes et qui provoque la colère de Dieu. Pourtant, dans sa compassion, Dieu est intervenu dans l'histoire en envoyant son Fils être condamné à notre place pour ses actes indignes. Et à tous ceux et celles qui placent leur foi en Jésus, grâce à sa mort et à sa résurrection, Dieu accorde la justification. Il n'y a plus de condamnation pour eux. Dieu n'est plus en colère contre eux. Dieu accorde aussi une vie nouvelle, un cœur nouveau, une intelligence nouvelle. Et c'est là que nous prenons conscience que notre intelligence déréglée a besoin d'être réglée par l'Esprit de Dieu et par sa parole. Ainsi, nous ne nous conformerons pas au monde actuel. Ainsi, nous discernerons quelle est la volonté de Dieu. Ainsi, nous offrirons à Dieu sans résistance notre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui lui est agréable. Alors demandons à Dieu qu'il continue cette métamorphose jusqu'au jour certain où notre intelligence, notre pensée s'alignera parfaitement sur la pensée de Dieu. Ça, c'est notre espérance, que un jour, notre pensée, notre intelligence s'alignera parfaitement sur ce que Dieu veut. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Notre Père, nous reconnaissons nos insuffisances et nos limites. Nous reconnaissons aussi combien notre intelligence peut être corrompue par le péché qui est toujours présent dans notre vie, par le péché qui nous environne, par toute l'influence de ce monde qui est autour de nous. Oui, nous reconnaissons, Seigneur, que si tu n'interviens pas, nous ne changerons pas. Que si dans ta grâce, tu ne poursuis pas cette œuvre de transformation, eh bien, il n'y a aucune métamorphose à espérer. Mais merci. Merci parce que dans ta grâce, au contraire, tu promets cette œuvre de restauration, cette œuvre où tu renouvelles notre intelligence par ta parole. Et accorde-nous, Seigneur, d'aimer tellement plus ta parole. Parce que précisément, ça vient de toi. Parce que précisément, Seigneur, tout ce qui est dans l'Écriture est suffisant pour toute œuvre bonne. Accorde-nous, Seigneur, aujourd'hui et dans les jours à venir, et tout au long de notre vie, d'avoir cette intelligence renouvelée par ton esprit. Oui, nous te le demandons, Seigneur, nous savons que c'est une grâce de ta part. Et nous prions, Seigneur, que tu agisses conformément à ta parole. Au nom de Jésus. Amen.